Bienvenue. Je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue, tu écoutes l'épisode 45 de Post Boost, comment arrêter la réunionite soporifique. Je ne sais pas toi, mais moi je ne supporte plus d'être en réunion. J'ai l'impression d'y perdre mon temps quand je dois animer une réunion ou un atelier pour lancer, booster ou recadrer un nouveau projet. Bah, rien que d'y penser, j'ai envie de fuir. Peut-être que tu as prononcé l'une de ces phrases, voire les deux. Dans mon job, je suis victime de réunionite soporifique et je crois que pendant longtemps, j'ai aussi occupé la fonction de bourreau. J'ai le syndrome de la bonne élève. Je prépare un super contenu de fond, je fais un joli PowerPoint, je prépare mon discours, le jour J, je suis prête, je me lance toute motivée. Et là, flop, aucune interaction. J'ai l'impression que j'ennuie mon auditoire et que je ne sais pas capter leur attention. Mais c'est normal, jusqu'à pas longtemps, je n'avais pas la bonne posture, la bonne méthode, les bons outils. Ou plutôt, j'étais à la recherche du dernier super outil qui allait tout faire à ma place. Confession, j'avais 100% tout faux. Mais tout a changé quand j'ai assisté à ce live « Comment construire un déroulé d'atelier qui cartonne ?» Et ça a littéralement changé mon approche de l'animation. Mieux encore, ça m'a donné envie d'animer à nouveau des réunions et des ateliers, c'est dire. Cette personne incroyable qui a proposé cet atelier, c'est Sonia Boisdur, cofondatrice de Magnana. Sa mission, aider les individus et les équipes à développer leurs compétences de savoir-être au travers de l'intelligence collective et du design thinking. Car la communication et la collaboration sont des compétences qui ne s'improvisent pas. Sans attendre, on passe au sujet du jour. Bonjour et bienvenue dans Post Boost, Sonia.
Hello Aurélie.
Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir. Tu inaugures cette nouvelle saison et aussi le nouveau format pour les invités. En 2023, chaque experte aura droit à une mini-série de 3 épisodes en moins de 20 minutes. C'était une doléance forte de mes auditrices. Donc, tu inaugures ce format et on va aborder ensemble un sujet ô combien épineux, comment mettre fin aux réunions soporifiques. Alors moi, je te connais, mais je te laisse te présenter en quelques mots. Qui es-tu, Sonia Boisdur?
Alors, donc moi, je suis facilitatrice et coach d'équipe. En fait, mon job, c'est quoi? C'est d'accompagner les équipes à collaborer de manière optimale, à finalement communiquer aussi de façon efficace, à fluidifier les temps collaboratifs. Et donc, en tant que facilitatrice, moi, j'apporte des outils, des méthodes, un cadre pour permettre, en fait, fluidifier la relation en équipe.
Ok, tu as travaillé pendant 10 ans dans le marketing en tant que salarié et en 2019, tu as décidé de tout plaquer pour entreprendre et tu as créé Magnana avec Laura Hernandez. Pourquoi ?
Yes, effectivement, j'ai travaillé pendant un bon bout de temps dans le salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai énormément appris en marketing, clairement. J'ai eu des postes sur lesquels j'ai pu monter en compétences, apprendre, développer, découvrir l'univers de l'entreprise. Parfois les jeux politiques, les contraintes, mais aussi les avantages qu'on peut retrouver dans le travail d'équipe. Mais je dois dire qu'en fait, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai eu pas mal de frustrations, notamment liées justement au fait que dans pas mal de grandes structures, on ne sait pas trop bien travailler en équipe. Je pense que toi aussi, Aurélie, t'as vécu, hein, on en a tous vécu, des réunions qui s'enchaînent, qui s'arrêtent jamais, tu sais pas forcément pourquoi t'es là, t'as été invité, mais tu sais pas ce qui va émerger à la fin de la... le pourquoi du comment de cette réunion. Et ça, je dois dire que ça m'a beaucoup frustrée et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans le coaching d'équipe.
Et qu'est-ce que ça signifie, Magnana?
Alors, Magnana... Magnana, ça veut dire demain en espagnol. Et avec Lara, lorsqu'on a développé le projet, Notre vocation, notre mission dès le départ, c'était de transmettre les compétences clés de demain, dont la facilitation fait partie. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à choisir ce nom, Maniana, qui veut dire demain et qui, pour nous, évoque le futur, en fait, les compétences du futur.
Cool, merci. Alors, on passe au premier épisode de cette série, qui est ce que j'appelle le Back to Basics, dans laquelle tu vas nous donner ton avis sur la facilitation et plein d'autres sujets. Alors, je te pose la question, c'est quoi la posture de facilitatrice ?
Alors, la posture de facilitateur, facilitatrice, c'est une posture d'accompagnement, d'encadrant, finalement. Et en tant que facilitateur, le rôle, c'est d'amener le groupe à faire émerger des idées et à prendre des décisions, collectivement. Le but d'un facilitateur, et attention, c'est pas celui du tout d'un consultant, c'est pas de trouver des solutions à la place d'un groupe, mais c'est d'apporter un cadre, des outils, une méthode qui permettent au groupe de co-construire, de réfléchir en intelligence collective. Et donc, je dirais vraiment que le rôle du facilitateur, c'est celui d'un guide neutre. Voilà.
Ok, du coup, tu penses que c'est possible d'être facilitateur ou d'adopter une posture de facilitateur si tu es déjà salarié de cette entreprise ou c'est plutôt une compétence à aller chercher à l'extérieur ?
Pour moi, les deux sont possibles. Évidemment, c'est plus simple lorsque tu n'es pas partie prenante d'un projet d'arriver en mode facilitateur, clairement. Je pense que le but aussi, à un moment donné, c'est de démocratiser cette posture et de faire connaître en fait le rôle du facilitateur et de l'expliquer en fait à son équipe, de dire bah, en fait aujourd'hui je vais pas être le chef de projet de ce projet là mais je vais agir plutôt en tant que facilitateur. Donc évidemment ça pose toujours des questions de neutralité, on est toujours partie prenante, on a des avis, des opinions. Maintenant moi ce que je conseille souvent aux personnes que je forme c'est d'échanger. Donc, par exemple, toi, Aurélie, si tu es facilitatrice, tu vas aller faciliter l'atelier d'un collègue de l'équipe d'à côté et inversement, ce qui permet de créer des synergies en plus entre les équipes. Voilà, moi, je recommande souvent ça.
Ah, tu veux dire d'être facilitateur sur un projet qui n'est pas forcément dans son domaine d'expertise, de mission du quotidien.
Voilà, mais qui quand même reste au sein de la boîte.
Pourquoi c'est devenu si capital au sein des entreprises, d'après toi, cette nécessité de facilitation ?
Je pense que l'ère de dicter aux collaborateurs, aux équipes, ce qu'ils doivent faire, elle est clairement révolue. Personne n'a envie d'exécuter un plan qu'il n'a pas choisi. Et moi, il me semble que pour engager des équipes, pour qu'elles soient contributrices et performantes, elles doivent co-construire, en fait. Elles doivent être à l'initiative des projets, elles doivent co-construire le projet dès le départ. Voilà, et donc si on n'est pas capable aujourd'hui d'embarquer les collaborateurs dans les projets dès le début, le risque c'est d'avoir des gens qui ne sont pas impliqués.
Là, tu penses que c'est lié aussi à une évolution qu'on a un peu tous par rapport à la place qu'on veut donner au travail, le rapport qu'on lui attribue ?
Absolument, je pense qu'il y a la question du sens aussi, tu as raison, qui est derrière, qui est en fait, moi j'ai envie de contribuer à quelque chose qui a du sens pour moi, à un projet pour lequel j'ai apporté mes idées, donc je suis complètement d'accord avec ça Aurélie.
Ok, tu penses aussi que les entreprises n'ont peut-être pas pris conscience que ça pouvait être un excès, je le dis en même temps que je parle, hein, je réfléchis en même temps que je te raconte ça, que finalement la facilitation c'est aussi un excellent levier pour fidéliser ses collaborateurs ?
Oui, pour les fidéliser, pour les mobiliser, pour travailler sur le long terme aussi dans des projets de manière... je pense qu'il y a un vrai sujet de fidélisation, de sens et de co-construction en fait. J'ai contribué dès le départ à faire naître cette idée, j'ai envie de la porter jusqu'au bout.
Ok, cool. Moi, j'ai l'impression, à la fois comme participante et des fois aussi comme animatrice ou bourreau, hein, je prends tout de le dire, de confondre finalement les ateliers ou les réunions. Qu'est-ce que tu en penses de cette confusion qu'il peut y avoir beaucoup entre ateliers et réunions ?
Bah, je pense qu'il y a une grosse confusion. Aujourd'hui, on fait des réunions pour tout et n'importe quoi. Moi, je me souviens de l'époque où j'étais encore salariée. J'avais un agenda qui débordait de réunions auxquelles j'étais invitée, qui n'avaient aucun intérêt pour moi, dans lesquelles je n'avais pas du tout besoin d'être présente. Et je pense qu'aujourd'hui, la réunionnite, hein, comme on l'appelle, elle est malheureusement encore d'actualité. Là où parfois on en fait on a c'est pas du tout d'une réunion qu'on a besoin mais c'est parfois d'un atelier de travail, ce qui est différent. Pour moi, une réunion elle doit être organisée si tu as une nécessité de transmettre une information de manière descendante, auquel cas tu vas avoir la personne qui transmet l'info qui va majoritairement prendre la parole, mais elle va pas chercher à construire parce que c'est pas le but. Elle va plutôt chercher à informer. Et pour moi, ce type de format, ça ne doit pas être plus de 30 minutes. Et si tu peux le faire en asynchrone via une vidéo, c'est encore mieux. Bon, voilà. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, tu as vraiment besoin d'avoir les gens. À l'inverse, j'allais dire, ou en tout cas à côté, il y a le format atelier, qui pour moi est hyper puissant si tu veux faire... utiliser la matière grise de chacun, construire ensemble, atteindre un objectif commun. Et là, on n'est pas sur la même chose. Et ça, ça demande, lorsqu'on se lance dans une initiative d'atelier, d'avoir un cadre, des outils, une méthode, un facilitateur. Voilà. Donc, je trouve que cette notion, effectivement, réunion-atelier, elle est assez, assez importante à avoir en tête.
Alors, je pense que là, tu vas en asseoir plus d'une. Une réunion de plus de 30 minutes ne devrait pas exister.
Non.
Et pourtant, on le vit, je pense, de plus en plus. Mais c'est une super idée, en fait, de se dire que finalement, si on catégorise le temps d'échange avec une équipe, si on est manager, par exemple, ou si on est chef de projet, j'ai une information descendante. Pourquoi faire une réunion de 45 minutes, une heure ? Peut-être que si je fais une vidéo pour raconter ce que j'ai raconté, ça suffit. Parce que finalement, je n'attends pas d'échange, je n'attends pas de contradiction sur le sujet que j'aborde. Et par contre, si je veux faire travailler, avancer, réfléchir, c'est un autre format pour lequel il y a une autre construction et un autre cadre. C'est bien ça ?
Exactement, exactement. Et dans ces cas-là, sur ce type d'atelier, tu as besoin de savoir, enfin, sur tous les ateliers que tu organises, on a besoin de savoir pourquoi on est là, quel est l'objectif final attendu, qu'est-ce qu'on va produire en termes de livrables et qu'est-ce qui va se passer après cet atelier. Et tous ces éléments-là, ils doivent être préparés en amont. Donc, un atelier, c'est pas, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et moi, je dis souvent que 80% du succès d'un atelier collaboratif, c'est la préparation qu'on en fait en amont, en fait.
J'espère que cette première partie t'a plu. Demain, avec Sonia, on continue sur le sujet du jour, comment arrêter la réunionite soporifique avec ses conseils d'experte. À demain!